m'a dit d'arrêter, s'il te plaît, là-haut. Voilà.
Alors, nous sommes ici devant une construction en cours. Alors, Jean-Pierre, bonjour à toi.
Oui, bonjour. Et cette construction, c'est une cabane, hein, superbe, avec deux façades, on le voit, bien vitrées. La construction a été décidée sur cet emplacement, hein, qui est voué, comme diraient ceux qui parlent beaucoup de vocation, à être inondé. Hein, si le barrage se fait, ça sera inondé, cette zone-là. Elle est construite ici de façon à pouvoir abriter les personnes qui vont venir s'installer ici pour surveiller, protéger et tenter donc d'empêcher que les travaux n'aient lieu. Ces personnes-là s'étaient installées un petit peu plus loin, donc un peu plus en amont, pas très loin de la rivière, hein, sur la zone humide, dans une maison qui s'appelle la Métairie Neuve, maison occupée jusqu'en 2004, hein, par un couple de vieux paysans. Et cette maison-là a été rachetée par le Conseil Général, comme pas mal de terrains ici, hein, la plupart des terrains. Le Conseil Général l'a laissé tomber. Hein, la toiture était en mauvais état. Et un groupe des opposants à la construction de ce barrage, voici 3 mois, est venu réparer la toiture et donc mettre la maison hors d'eau. Hein. Il faut savoir que cette métairie neuve, comme son nom l'indique, avait plus de 300 ans. Elle a plus de 300 ans. C'est une maison construite en briques crues et torchies. Voilà, elle a été l'objet donc d'une agression de la part d'un commando le 23, c'est-à-dire il y a 3 jours, le 23 janvier, oui, alors que ne se trouvaient à l'intérieur que deux personnes, deux jeunes filles, un commando d'une vingtaine d'individus masqués. Venu à bord de véhicules dont les plaques d'immatriculation étaient recouvertes par du scotch. En plein jour, donc, ils ont débarqué avec des masses, des barres de fer, et ils ont commencé à tout casser dans cette maison. Puis ils ont répandu des produits chimiques dont on ignore la teneur exacte, hein, à l'intérieur, hein, sur les meubles, sur les matelas, les sacs de couchage, les couvertures, les draps, etc. Voilà. Avant de repartir, un commando, d'après donc les témoins, un commando bien organisé, très excité, brutal, puisque une des personnes a tenté de sortir son téléphone pour avertir les participants au collectif tant qu'il y aura des bouilles. Mais elle a été agressée immédiatement, hein, et un des membres du commando a tenté de lui arracher son téléphone. Voilà.
Bonjour à toi.
Bonjour.
Tu fais partie des deux personnes, me semble-t-il, qui étaient dans les lieux de la Métairie Neuve le jeudi 23. Si tu peux nous raconter ce qui s'est passé.
Alors oui, effectivement, on était deux jeunes filles. Et vers 4 heures de l'après-midi, un homme avec une tronçonneuse et un t-shirt orange est arrivé sur le champ d'en face, entre le champ et la forêt, s'est mis à faire les 100 pas avec la tronçonneuse allumée et on se demandait ce que c'était. Nous étions à la source en train de prendre de l'eau et quand nous sommes revenus sur la métairie, il y avait une vingtaine de personnes cagoulées en train de commencer à tout casser à coups de masse. Le toit, les portes, les volets, tout ce qu'ils arrivaient à enlever du bâtiment, ils le détruisaient en miettes. J'ai voulu téléphoner pour faire venir du monde parce que j'étais inquiète. Ils ont voulu m'arracher le téléphone, ils m'ont pris par le bras, ils m'ont secoué en me demandant de donner le téléphone. Je leur ai dit que non. Ils ont également, dans toutes les pièces de la métairie, jeté des bouteilles remplies d'un produit agressif qui est apparemment un répulsif pour animaux, pour chevreuils et pour sangliers. Donc ils ont rendu complètement inhabitable ou même être à quelques mètres de la métairie, c'est insupportable à cause de l'odeur et de l'agression lorsqu'on respire. Ils ont bien fait attention à mettre sur tous les matelas, sacs de couchage pour qu'on puisse pas réutiliser le matériel.
À ce moment-là, vous n'avez pas pu rester dans la maison puisque donc c'était s'appuyer partout.
C'est ça, la maison est complètement inhabitable. En plus des courants d'air, elle est pas saine, quoi. On peut pas respirer. Je suis allée voir pour essayer de tenter de vérifier les dégâts qu'ils avaient faits. Et on peut pas rester à l'intérieur des bâtiments sans s'étouffer.
Et ces produits, ils étaient dans quel genre de contenant? Comment ils ont aspergé?
Ils étaient dans des bouteilles de verre qu'ils ont éclatées sur les murs, sur le sol. Et ils ont bien distribué pour qu'aucun endroit soit supportable. Un peu comme s'ils connaissaient les lieux. D'ailleurs, ils se sont très vite partagés, chacun à sa tâche. Donc, ils connaissaient les lieux et ils avaient déjà prévu, bien organisé la destruction qui n'a duré que 4 minutes quand même. Donc, c'est difficile de détruire un endroit en si peu de temps sans connaître effectivement bien les lieux avant.
Quand tu dis 4 minutes, c'est que tu as vu regarder sur ton ordi, sur ton portable, sur quoi tu as regardé?
Oui, je venais d'appeler quelqu'un en fait à cause du gars qui avait la tronçonneuse. Donc, quand ils sont partis, j'ai vérifié l'heure et c'était 4 minutes. Très vite, en 4 minutes, quelqu'un a sonné encore et ils se sont tous réunis et sont partis. Je les ai suivis, il y avait 6 voitures. Avec les plaques d'immatriculation cachées par du sparadrap, et ils sont partis. Je leur ai demandé à l'occasion, quand ils voulaient m'arracher le téléphone, pourquoi ils faisaient ça. Ils m'ont répondu, vous n'êtes pas chez vous ici, nous on paye des impôts. Et ils sont partis, voilà, c'est l'histoire.
Donc, la décision a été prise de construire cette cabane. Alors qu'on voit que pas loin de là, les débris d'une cabane déjà incendiée probablement par le même commando, voici déjà 3 semaines. Mais disons qu'ici, on surveille, on est mieux placé pour surveiller la zone où doivent démarrer les travaux, quoi.
Bon, voilà. Tu ouvriras.
C'est chiant.
Johan, tu oublieras le désir que tu avais de garder l'essence. J'ai oublié.
Donc l'appel qui est fait, c'est de venir, hein, comme on peut voir dans le micro, cette cabane va être parfaitement habitable, et voire confortable et chaleureuse. Elle est bien isolée, c'est du travail de charpente, hein, charpente en bois, avec une isolation paille, des murs bois évidemment et isolation paille. L'appel qui est lancé, c'est à venir par rotation, venir participer à cette présence, à cette occupation de la zone humide de tester, parce qu'il y a besoin de monde, il y a besoin de témoins, il y a besoin de s'intéresser, de se soucier de ce qui risque de se passer. Mais il y a bien une vingtaine, une trentaine ici tout autour, hein, de personnes qui participent ensemble, hein, à la construction de cette cabane. Et là, on peut parler d'une expérience qui est vécue, hein, de travail collectif. C'est très formateur parce qu'on apprend, on réapprend. D'abord à travailler ensemble et ensuite à construire de façon autonome, hein, sans faire appel à des gros entrepreneurs, on réapprend l'autonomie.
J'aimerais bien clouer celui-ci, là.
Le plus haut.
Ouais, tu vois. Parce que là, il tient pas du
donc,
tout.
Je te tiens à l'échelle, je t'amène des pointes.
Moi, j'ai une scie, j'attends plus qu'à scier.
Ouais, là, c'est à 60, okay. Là, il faut la...
On a vraiment une victoire à notre portée.
Lundi 24 février, à La Bouillonnante. La Bouillonnante, cet espace et cette cabane qui ont été bâtis depuis le 26 janvier par le collectif Tant qu'il y aura des bouilles. Tant qu'il y aura des bouilles, des représentants de ce collectif. Tout d'abord Camille, bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Régine.
Bonjour.
Et également Gaëlle.
Bonjour.
Alors Gaëlle, une particularité, vous êtes paysan dans le coin.
Oui, je suis maraîcher pas très loin, là, à quelques kilomètres. Bon, je suis venu au maraîchage bio en l'occurrence par envie de travailler la terre qui nous héberge. Et il me semble que le projet ici va à l'inverse de la protection de la nature.
Le motif aujourd'hui, lundi 24 février, de cette conférence de presse, vous avez convoqué donc des médias régionaux.
On a écrit une lettre ouverte à Monsieur Carsonac, président du Conseil général du Tarn, ainsi qu'à tous les conseillers généraux du Tarn, pour leur demander de se positionner publiquement concernant le projet de barrage et leur demander s'ils prétendent être dans un système démocratique et défendre l'intérêt général, leur demander d'annuler ce projet de barrage qui va complètement à l'encontre de l'intérêt général et qui a été mené de façon totalement antidémocratique.
Aujourd'hui, vous êtes une poignée de résistants de Tant qu'il y aura les bouilles. Il y a également un autre collectif, le collectif donc Testé, qui lui fonctionne donc d'une manière plus légaliste, en passant notamment par des procès, des procédures. Quel est votre lien avec ?
Ce qu'on peut dire, c'est que le collectif de Tant qu'il y aura des boules a été une émanation depuis le départ, c'est-à-dire que le collectif historique de sauvegarde de la zone humide du Testé, qui existe depuis plusieurs années et qui mène effectivement une bataille juridique et d'un formation auprès du grand public. Il y a eu un moment où, à l'intérieur du collectif, certaines personnes se sont rendues compte que le projet allait bientôt démarrer et que donc il fallait une présence sur le terrain. Donc ces personnes, elles ont lancé un appel à d'autres personnes qui étaient du collectif ou pas pour dire on va monter un autre collectif dont la finalité est la même, c'est l'annulation du projet de barrage, mais dont les méthodes vont différer et qui seront sur le volet pratique et sur le terrain. Donc le collectif du Testé, lui, mène sa bataille légale et tient à rester dans les aspects légaux qui sont impartis. Et le collectif des bouilles, lui, s'est organisé donc à par-delà ça. Donc il y a des membres qui font partie des deux collectifs. Moi, personnellement, je suis adhérente au collectif de sauvegarde de la zone humide et je suis aussi ici participante au collectif Tant qu'il y aura des bouilles. Il n'y a pas de lien formel qui sont établis entre les deux ou de stratégies qui sont menées de façon commune, mais ce serait quelque chose d'intéressant et qui finira sans doute par se mettre en place à terme, à savoir qu'il y a des propositions qui seront faites au collectif du Testé pour qu'il y ait une interaction entre les deux groupes.
Peut-être il y aura des liens plus tard. En attendant, il y a quand même une urgence actuellement, donc par rapport aux dates butoirs, a priori début mars, il se pourrait qu'il y ait un début de construction. Vous en êtes où au niveau de ce que vous savez de cette urgence ?
Là, il y a un arrêté préfectoral complémentaire qui vient de sortir, qui autorise le déboisement au mois de mars, sachant que c'était pas autorisé avant par rapport à la nidification des oiseaux. Alors, étant donné qu'ils étaient en retard dans leur projet, les oiseaux ne vont pas nidifier en mars. C'est logique, hein. C'est le préfet qui décide de quand les oiseaux doivent nicher ou pas. Par ailleurs, il y a un appel d'offres qui a été lancé en dernière minute par la CACG pour le déboisement. Cet appel d'offres, il se termine aujourd'hui lundi. Et il stipule que le déboisement doit être terminé le 31 mars. Donc concrètement, là, ils ont des délais extrêmement serrés puisqu'ils doivent déplacer toutes les espèces protégées avant de commencer le déboisement. Donc on s'attend à du mouvement dès maintenant, dans les jours qui viennent. On s'attend donc à ce qu'ils essayent de passer en force. C'est aussi un avantage pour nous parce qu'on sait que si on leur fait perdre quelques semaines, ils vont être trop en retard dans les travaux pour respecter les délais par lesquels ils sont tenus. Ils risquent de perdre les financements européens et ça risque vraiment de compromettre le projet. Donc là, en pratique, si on arrive à réunir une forte mobilisation dans les jours et les semaines qui viennent, on a vraiment une victoire à notre portée.
Concrètement, combien de personnes nécessaires sur ce site? De quelle manière également?
Alors moi, je vois deux aspects par rapport à ça. Je vois la lettre ouverte qui a été lancée. Donc je pense qu'elle peut avoir un impact si elle est largement diffusée. Donc moi, j'appelle tout le monde à télécharger cette lettre ouverte qui est en ligne, en première page du site internet www.tantqu'ilyauradesbouilles.wordpress.com et la diffuser le plus largement possible sur tous les réseaux. Donc elle peut être avoir un impact très positif. Après, par rapport à la résistance sur le terrain, c'est un petit peu difficile de savoir combien concrètement on sera, mais je suis assez confiant parce que quand il faut être là, il y a quand même des gens qui sont capables de se mobiliser. Donc c'est difficile de prévoir, mais concrètement on peut être efficace.
On a toute une liste de diffusion par texto avec un système d'alerte. Donc il y a un réseau effectif de personnes sur le Tarn qui est mobilisable assez rapidement en cas d'alerte rouge si jamais il y a des forces de l'ordre ou des déboiseurs qui arrivent. Après, tout le monde peut être informé en direct. Il suffit d'en faire la demande par le voie du site. Il y a une adresse mail collectif bouille au pluriel @rizob.net. Donc ça, si vous voulez être informé et recevoir les textos en temps en heure quand il se passe quelque chose et qu'il y a des textos d'information qui partent, voilà. Donc après, sur la capacité de mobilisation qu'on a dans le Tarn, on peut évaluer sur le nombre de personnes qui passent fréquemment et qui se mobilisent quand il y a des appels. Il y a une bonne 200 de personnes, enfin donc 200 de personnes qui sont potentiellement capables de venir sur un coup de bourre, quoi. Et après, à plus loin, des gens qui sont aussi qui peuvent venir pour plusieurs jours ou pour les événements, on a du mal à évaluer, mais bon, ça vient d'un peu toute la région. Il y a des gens qui viennent d'Aveyron, il y a des gens qui viennent du Lot, il y a des gens qui viennent de Toulouse, voilà.
Il y a actuellement une urgence, c'est s'opposer aux travaux qui devraient avoir lieu. C'est en fonction de ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent que vous allez aussi vous positionner. Est-ce que vous vous sentez prêt à vous engager dans une lutte à relativement longue échéance, comme par exemple dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes?
Oui, bien sûr, on est là pour arrêter les travaux et pour continuer la lutte tant que le projet de barrage ne sera pas annulé. Et on lâchera rien, on est sur le terrain, on est déterminé.
Maintenant, je me tourne vers Gaël, qui est maraîcher ici, dans le coin. Donc, Gaël, vous êtes vraiment un autochtone.
Ben, effectivement, enfin, moi, j'habite là depuis toujours. J'ai grandi ici. Voilà.
Comment vous vous positionnez par rapport à ce barrage qui va être fait notamment pour aider des maïsiculteurs qui sont un peu, bah, quelque part, vos collègues paysans?
En fait, je m'investis dans cette lutte parce que c'est vraiment une chance qu'on a au niveau local, à mon sens, d'exprimer un mécontentement de la politique qui nous est imposée et des projets qui nous sont imposés. Donc, faisant du maraîchage, je ne peux pas être sur des luttes qui sont plus éloignées, comme à Nantes ou quoi, mais ici, quelque part, c'est un moyen d'expression. Moi, je pense qu'une autre agriculture est possible, une agriculture donc qui est là pour nourrir les hommes, l'humanité, et que l'agriculture intensive qui nous est proposée aujourd'hui n'élève pas les hommes, ne les nourrit pas correctement, et c'est par une agriculture respectueuse de l'environnement que d'une part que l'humanité va peut s'élever, mais surtout qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants une nature accueillante, une terre accueillante pour qu'ils puissent vivre. Depuis des générations, on a pillé la terre pour une ascension sociale qui a permis une augmentation des revenus. Aujourd'hui, les revenus n'augmentent plus. La terre n'a plus de ressources et du coup, par contre, nos aïeux, il y a très longtemps, ont appris à cultiver la terre, à s'adapter à elle pour se nourrir. L'homme, aujourd'hui l'homme, veut la dominer, cette planète, pour produire toujours plus, pour faire des bénéfices à très court terme sur une génération, voire notre génération va dans le mur, il me semble. Mais du coup, on n'a pas du tout une vision sur les générations futures.
Je voudrais que le monde soit heureux.
Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? À mes enfants, quand je serai vieux et qu'ils seront grands, une terre imbibée de sang, une plaine au vent hurlant, que laisserai-je à mes enfants, quand je serai vieux et qu'ils seront grands, des tempêtes sur les océans et des tornades sur le néant. À mes enfants, quand je serai vieux et qu'ils seront grands, un soleil aux rayons assassins, un air vicié et malsain, que laisserai-je à mes enfants, quand je serai vieux et qu'ils seront grands, une eau aux relents de mort, des fleuves de mazout dans les ports, que laisserai-je à mes enfants, quand je serai vieux et qu'ils seront grands. Des éoliennes et des panneaux solaires plantés dans les déchets nucléaires. Que laisserai-je à mes enfants quand je serai vieux et qu'ils seront grands? Des carcasses d'avions meurtriers dans des forêts d'arbres pétrifiés. Que laisserez-vous à vos enfants quand je serai mort et qu'ils seront vieux? Une couche d'ozone au trou béant et plus une étoile dans les cieux. Que laisserez-vous à vos enfants? Un immense tas d'ordures. Pourront pas refuser le testament à croire qu'on est les générations futures. Une couche d'ozone au trou béant et plus une étoile dans les cieux. Un immense tas d'ordures pourront pas refuser le testament à croire qu'on est les générations futures, à croire qu'on est les générations futures, à croire qu'on est les générations futures. À croire qu'on est les générations futures. À croire qu'on est les générations futures.
Si tu peux nous rappeler les événements de ce matin, comment ça s'est passé? Donc, toi, tu étais où d'abord?
Eh bien, moi, du coup, je faisais mon tour de garde de 8 à 10. Et ils sont arrivés vers 8h15, 8h30 à peu près. Et ils sont arrivés, du coup, du côté de Barat. Ils sont arrivés à 7-8 camions. Ils ont posé les camions à toutes les routes. Et ils sont rentrés dans le champ. Ils ont entouré le champ, du coup, pour pas qu'on puisse partir. Et ils sont venus ensuite nous demander de partir gentiment avec nos affaires personnelles.
Et donc ça s'est passé très gentiment.
Au début, ça s'est passé plutôt gentiment, quoi. On a pris nos affaires un peu plus que les affaires personnelles forcément, Et puis ça a commencé à monter un peu en tension au moment où on a voulu bouger la caravane, du coup, où là ils voulaient pas qu'on récupère la caravane. Et on a essayé de s'y mettre, et là ils nous ont dit bon, vous avez 3 minutes pour bouger la caravane. Et effectivement, au bout de 3 minutes, ben non, c'est fini, vous n'avez plus le temps de bouger la caravane. Voilà.
Et ensuite ?
Et ensuite, du coup, nous, on a continué à déplacer du matériel. On n'avait plus accès au champ. Donc, c'est eux qui ont démonté le chapiteau. Et à un moment donné, on a essayé d'interrompre un peu les travaux qu'ils avaient lancés. Et là, ça a été du coup beaucoup plus violent parce qu'il y a eu confrontation directe. Et puis, bah, ils nous ont un peu gazé la tronche, quoi. Voilà. Et bah c'était un peu juste à côté de nous. Moi, elle était à 2 cm de ma tête, quoi. Donc, on l'a prise vraiment en pleine face. Et ça, c'est violent. Complètement.
Et donc, le copain qui a été embarqué ?
Bah, du coup, il nous poussait par l'arrière pour qu'on dégage le terrain quand notre ami a été embarqué. Bah, du coup, ils l'ont mis au sol. Ils lui ont attaché les pieds et les mains. Et ils l'ont embarqué. Hop là ! Ouais, traîné dans la boue.
Un ordre d'un des chefs à ces hommes-là, il leur a dit attrapez-le celui-là et traînez-le dans la boue. Et on était à côté, on l'a entendu, en disant l'ordre que vous donnez là, c'est pas sympa, là, ça va mal tourner, quoi. Donc ils sont allés le choper et ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé, les types, les CRS, là, enfin les gendarmes, et ils l'ont traîné dans la boue. Et là, les gens, bah, ils ont réagi, quoi. Et voilà. On est monté en disant lâchez-le, et puis ils ont fait barrière, et puis au bout d'un moment ils ont visé les filles, en fait, ils ont, avec les lacrymos, ils ont visé les trois plus petites filles, les moins dangereuses en apparence. Ils se sont dit bon, il faut attaquer le noyau dur. Alors ils ont gazé les filles, voilà. Mais pareil, avec un ordre, hein, on a vu le type, il allait chercher spécialement une bombe dans le camion, il est revenu et il a mis un coup de gaz, quoi, parce qu'on lui a donné l'ordre de le faire, voilà.
Et on peut dire à quelle heure vous avez été totalement délogé ?
Ça s'est fini à 11h30, midi, quoi, à peu près.
Là, c'est le nouveau campement. Vous pensez qu'il va durer ?
Ah bah oui, il va durer. On fera tout pour qu'il dure. De toute façon, on est là et on reste...
Ces campements-là, on peut les refaire jusqu'à la fin des temps. Hein. Eux, ils ont beaucoup de gendarmes. Nous, on a beaucoup de bois et tout. Donc, ça va se refaire indéfiniment. Hein. Voilà.
Le chapiteau qui a été démonté, on va le réimplanter et on maintient les journées de rendez-vous qu'on avait prévues le 1er mars et 26-27 avril pour avoir des événements festifs, pouvoir rencontrer les gens, leur parler de la situation. Et, même là aujourd'hui, même si c'est un peu l'urgence que tout matériel est bâché, il y a quand même la possibilité pour les gens de venir nous rencontrer, boire un café, venir nous retrouver sur le site où on essaie d'inventer un vivre ensemble différent et joyeux.
Nous voici dans le nouveau camp du collectif Tant qu'il y aura des bouilles, de l'autre côté de l'espace jadis occupé par la bouillonnante. Donc cette cabane accompagnée d'un chapiteau qui désormais ne sont plus depuis ce matin. Et cet espace donc qui est de l'autre côté de la petite route départementale est occupé maintenant par donc une pelleteuse qui finit son travail de destruction, de démolition, et par une cinquantaine, hein, de gardes mobiles. Alors à mes côtés, Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Marie, tout d'abord, toi, quel est ton positionnement ? Tu es habitant du coin ?
Oui, j'habite à Lille. Et moi, mon premier truc, c'est... Pourquoi on veut faire ce barrage à ce prix-là et avec nos impôts ? Voilà, c'est la première motivation, plus que naturaliste ou autre. Et j'ai rejoint donc les deux collectifs pour ça.
Donc les deux collectifs, c'est-à-dire tu fais partie du collectif Tant qu'il y aura des bouilles, mais également du collectif Testé.
Voilà. Puisque le collectif Testé est plus ancien et celui-ci ne date que d'octobre dernier.
Tiens, tu peux nous décrire un petit peu avec les branches ce qu'ils sont en train de faire
Eh bien, on a des spécialistes qui savent en quelques heures, on a la preuve tangible ici, construire des abris, construire des cabanes, dont on a récupéré des matériaux. Ça fait maintenant 3 mois qu'on récupère des matériaux. Et il y a des gens qui savent faire un habitat en quelques heures, construire plus ou moins dur, plus ou moins efficace. Et là, déjà, on voit une grande tente immense. Il y a là-bas 3 ossatures de maisons. Il reste, on devait porter des couvertures cette semaine pour les équiper. Donc, il y aura tout un tas d'abris et tout un tas d'habitations.
Donc, d'après toi, Jean-Marie, la lutte ne s'arrête pas là ?
Mais certainement pas, parce que on pense que ce projet, d'abord, coûte très cher et n'est pas justifié. Et on ne voit pas pourquoi, dans un premier temps, 10 millions d'euros, et on a calculé sur les 10 ans à venir, 20 à 25 millions d'euros pris dans les poches des contribuables, iraient faire ce barrage qui serait au bénéfice de quelques agriculteurs. d'après ce qu'on travaille sur le sujet, c'est 20 à 25 exploitations, pas plus. Pour aussi diluer quelques effluents de communes qui, soi-disant, rejettent en Etescu des effluents non conformes aux normes. Mais je crois qu'il y a aussi une autre dimension qui est cachée et qui dure depuis 40 ans. Parce que ce projet, il y a plus de 40 ans qu'on en parle. Dans un premier temps, c'était pour l'irrigation. Dans un deuxième temps, ça a été, ils vont faire une base de loisirs, vous construirez du tourisme et tout. Ensuite, il y a eu la commune de Lille, vous pompez l'eau dans le sol, vous risquez un jour de manquer d'eau, donc vous aurez une réserve d'eau si vous avez problème d'eau potable. Actuellement, c'est de l'irrigation et la dilution des effluents. Mais je crois qu'il y a une autre raison qui fait que l'État est toujours sur ce projet et que les préfets successifs l'ont plus ou moins soutenu. C'est aussi une réserve d'eau, 1,5 million de mètres cubes, en cas de gros problème au Golfech. Et quand on pose la question, j'ai posé évidemment la question il y a maintenant presque 2 ans à la réunion publique sur cette enquête, on m'a revenu, mais non monsieur, seuls les affluents de la rive gauche de la Garonne sont concernés, comme si l'eau qui venait de droite ou de gauche avait de l'importance. Et puis on a bien vu, en 2003, la Garonne était très basse. Il est sûr que quelques retenues comme celles-ci qui sont projetées sur la région de 1 million à 2 millions de mètres cubes, ça ferait du bien s'il y avait un problème au Golfech. Mais ça, on ne veut pas en parler. C'est certainement pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui fait que ça dure depuis 40 ans. Et cette raison, on ne veut pas l'avouer. Quand on pose la question, je vous dis, on nous dit « mais non ». Moi, je crois qu'il faudrait arriver à convaincre les décideurs qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais ça, c'est très difficile. Que des politiques arrivent à dire « je me suis trompé », surtout que derrière, je viens de le dire, il y a énormément d'enjeux financiers, il y a des lobbies derrière, et même ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'il y a des intérêts particuliers, privés, entre ces élus, qui ont aussi des pieds là-dedans, ou même qui ont des actions dans des boîtes qui vont travailler là-dessus. Évidemment, on se heurte à un truc de, je vous dis, de 20 à 25 millions. Il y a des gens qui ont des intérêts privés là-dedans. Donc, je sais pas. Et puis, je crois, moi, profondément, je crois qu'il faudrait, parce qu'il n'y a pas de problème, il y a des siècles qu'on vit là-dessus, faire une agriculture conforme au sol et au climat. Je crois que c'est la solution. Parce que c'est la solution actuelle et la politique agricole commune qu'on mène depuis pas mal d'années, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas ça. Je répète, pendant des siècles, on a vécu ici. Donc, en tenant compte des sols et des climats, on peut arriver à une agriculture qui fait bien vivre les gens, qui leur donne suffisamment de revenus et qui n'abîme pas ou qui esquinte pas ou qui va pas jouer toutes ces sommes-là. Enfin, tous ces intérêts financiers qui vraiment nous foutent en l'air.
Donc on te retrouvera sur cette lutte, Jean-Marie.
Oh, certainement, en tout cas, tant qu'on pourra.
On sait donc pas dans le monde d'aujourd'hui tant qu'on aura tout l'estomac fini. Profitez-en, c'est la seule chose à faire. Prenez donc le temps de boire une autre belle bière. À quoi ça sert de faire la course à pied? Tant qu'à prendre l'air, pas besoin d'être pressé. On est bien mieux à terrasse d'un bistrot, à boire du blanc avec des bigorneaux. Tant qu'on pourra se passer du cimetière, avoir du fun, manger, baiser, pis boire. Tant qu'on pourra entre joyeux copains, t'approcher le cul d'une belle bouteille de vin. Dans toute auberge où viens boire et demi, on s'y asperge bien mieux que dans une église. Surtout quand celle qui vient servir à boire possède des seins qui réaniment l'espoir. Un jour ou l'autre, qu'on soit à jeun ou sous, à la bonne note, on boira comme des trous. En attendant du dinde pis de la bière, mastiquez bien pour prévenir les ulcères. Tant qu'on pourra se passer du cimetière.